Salut, c'est la Poulie.
Salut, vous êtes bien sur Radio Primitive, il est 11h et c'est votre revue de presse.
Mais pas que.
Allô, Hervé ? Ah, allô, allô ?
Qu'est-ce cela ?
C'est le calendrier des télécoms.
Alors, pour l'agenda de cette semaine, donc moi, je vous parle et je vous propose un événement présenté par la Luciole, future librairie à Reims. Ça se passe au Flambeau le 17 novembre et c'est une pièce de théâtre qui s'intitule « 17 octobre 1961, je me souviens ». Et c'est une pièce de Mamed Kaki. Et voilà, ouverture à 19h, représentation 20h. Voilà, à la MJ, à la, on ne dit plus la MJC, Espace Le Flambeau, 13 rue de Bethny, à Reims.
Et, ok, et moi je voulais vous parler, toujours dans l'agenda, des journées d'action contre la Farge et son monde. C'est du 9 au 12 décembre. Donc je vous lis vite fait un petit truc là-dessus, ça en sera plus clair. Ce 10 décembre 2023, cela fera un an que 200 personnes se seront introduites dans la cimenterie de Bouc-Bélair, un des 50 sites industriels les plus polluants du pays, pour la mettre à l'arrêt. Joyeux anniversaire. Ce 10 décembre, dont les magnifiques images ont réchauffé à la fin de l'année 2023, est devenue une date emblématique de la lutte contre le béton. Une idée est donc apparue. Pour marquer d'un vent de résistance cet anniversaire, par solidarité envers les arrêtés, pour affirmer qu'il est toujours possible de critiquer, en acte, la Farge et consorts, et pour montrer la diversité et la multiplicité de celles et ceux qui se battent contre le béton, du 9 au 12 décembre, lançant les journées d'action contre la Farge et le monde du béton. D'une même voix, nous voulons porter un message clair, le règne de la Farge-Holcim et des autres conglomérats du béton n'est pas une fatalité. Leurs exactions doivent cesser pour que cesse l'intoxication de ce monde. Les gouvernements actuels doivent enfin arrêter de les couvrir. D'autres manières de construire et d'habiter le monde sont possibles. Donc voilà, tout est bon à prendre. Faisons-nous entendre.
Ok, on se met un peu de musique.
Please be out of the talent show.
Voilà, c'était Class Act qui nous interprétait Status Game dans la poulie. Et tout de suite, là, on vous parlait des saccages et des dégâts des entreprises bétonneuses. Et elle travaille en ce moment beaucoup pour les futurs JO 2024. Et donc, je voulais vous signaler, alors j'ai trouvé ça sur IATA.info. IATA, ça doit être le portail de... info autonome Toulouse et alentour, quelque chose comme ça. Yata.info, c'est l'adresse. Voilà. Pourquoi ça? Alors, il propose une carte des saccages des JO de 2024, des JO de Paris. Pourquoi cette carte? Ça, c'est le petit texte qui l'accompagne. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, JOP, sont très complexes. Ils transforment des quartiers, des villes, parfois des régions. Leurs impacts sociaux et écologiques sont multiples et souvent liés à d'autres grands projets d'aménagement. Cette carte a donc été créée parce que beaucoup de gens nous disent qu'elles ont du mal à se représenter les conséquences des JOP. On pense qu'elle est nécessaire parce que les cartes et visuels produits par CELE qui organisent les JOP 2024 et qui réalisent les aménagements ne permettent pas bien de comprendre ce qui est construit. Ou quelles activités y auront lieu, qui n'y sera pas bienvenu. Ces images cachent aussi tout ce qui vient avec les JOP. Gentrification, surveillance, gâchis d'argent public, mauvaises conditions de travail sur les chantiers, expulsion des plus pauvres, urbanisation d'espaces naturels, emplois précaires, etc. On voudrait donc que cette carte soit un outil militant, une contre-carte qui donne la parole aux collectifs, aux personnes, aux lieux concernés et propose un récit alternatif à celui de l'État et des collectivités et des sponsors et des entreprises de construction. Voilà, donc c'est une très belle carte d'ailleurs réalisée à voir sur IATA.info.
Et on la repostera sur notre page du site internet de la prime.
Et oui. Et voilà. Et donc pour continuer sur ces JO, là ce coup-ci ça se passe à Tahiti et c'est un article de Basta. De Mathilde Picard. Ça va défoncer les coraux. Mobilisation à Tahiti contre la tour de surf des JO. Associations et communautés locales de Tahiti craignent les impacts environnementaux d'une nouvelle tour des juges depuis laquelle sera arbitrée et filmée et diffusée l'épreuve de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le projet d'une nouvelle tour d'arbitrage qui doit être construite pour les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris à Tahiti, édifice de 14 mètres de hauteur, nécessite 12 plots en béton plantés dans le platier corallien à l'aide de plusieurs dizaines de micro-pieux et de 2 mètres de profondeur pour un bâtiment tout en aluminium relié à la terre par une canalisation en fonte d'environ 800 mètres afin de faire passer la fibre pour la retransmission de l'épreuve ainsi que l'arrivée et l'évacuation d'eau pour les toilettes. Les travaux envisagés font craindre une destruction des récifs coralliens et de la biodiversité locale ainsi que l'arrivée d'une micro-algue qui se développe dans les récifs coralliens détériorés qui produit une toxine provoquant une intoxication alimentaire lorsque l'homme mange des poissons contaminés. Voilà, et cette tour, elle a aussi un coût de 4,4 millions d'euros pour payer pour moitié par la collectivité et donc par les contribuables. Voilà, et tout ça pour seulement 4 jours de compétition. Donc voilà, il y a des associations et des personnes qui se mobilisent à Tahiti contre cette tour des JO et vous pouvez lire cet article dans Basta.Bastamag sur Basta.media. Voilà.
We're gonna make it.
On s'écoutait le groupe Nylon et c'était la chanson c'est Suspect.
Et ben moi je vais vous lire un petit texte qui est paru sur Contre-Attaque, contre-attaque.net, s'appelle, et on va faire un peu de vocabulaire avec la police nationale. Voilà, ça s'appelle l'écoterrorisme enseigné en école de police. Le mot terrorisme est utilisé d'une manière tellement absurde et extensible qu'il a démontré qu'il ne voulait rien dire. Le terme terrorisme est attesté pour la première fois en novembre 1794. Il désigne alors la doctrine des partisans de la terreur. C'est un mode d'exercice du pouvoir et pas un moyen d'action contre lui. De nos jours, le terrorisme désigne l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. De fait, tous les États du monde, toutes les armées, toutes les polices utilisent la terreur à des fins idéologiques. D'un côté, le terrorisme, tel qu'on l'utilise dans les médias, serait l'incarnation du mal, absolu, de la violence nihiliste la plus extrême, la figure du monstre qu'il faut éliminer, et en même temps, la définition du terrorisme est de plus en plus vaste. Elle concerne de plus en plus de groupes différents. Aux États-Unis, après la mort de George Floyd, Donald Trump proposait de classer la mouvance Antifa comme terroriste. À Atlanta, pour réprimer une mobilisation contre un projet de centre policier détruisant une forêt, Cop City, les opposants ont été inculpés pour terrorisme domestique. À l'occasion d'un déplacement à la foire du livre à Londres, un représentant de la maison d'édition La Fabrique a été arrêté arbitrairement en vertu de lois antiterroristes durant le mouvement social sur les retraites. En France, plusieurs procédures antiterroristes ont visé les luttes sociales. Celle contre le groupe de Tarnac en 2007, une bande d'amis partageant des opinions politiques dissidentes, qui a abouti à une relaxe générale. Une autre, le 8 décembre 2020, contre plusieurs personnes ne se connaissant pas toutes, mais liées à un ancien combattant français parti au Rojava pour soutenir les Kurdes et combattre les terroristes de Daesh en Syrie. L'État français invente donc le terroriste antiterroriste. Le dossier totalement vide, jugé en octobre, ne repose sur rien d'autre que les idées anticapitalistes des personnes arrêtées. Il a pourtant coûté des années de liberté aux personnes visées. L'antiterrorisme est un récit. Depuis l'année dernière, les dirigeants français parlent même d'éco-terroristes. Et ils frappent en conséquence. On se souvient de la descente de police antiterroriste contre les soulèvements de la Terre, le 20 juin dernier. La semaine dernière, l'absurdité du concept de terrorisme a atteint son apogée. Le Hamas et les opposants à une autoroute ont été chacun qualifiés de terroristes. D'un côté, les macronistes ont aboyé en meute pour que le Hamas soit qualifié de groupe terroriste plutôt que de criminel de guerre. Une définition conforme au droit international est beaucoup plus précise. En fait, qualifier le Hamas ainsi justifiait dans le narratif occidental une guerre antiterroriste, c'est-à-dire pouvant s'émanciper des règles internationales contre la bande de Gaza. Ce vocabulaire rendait donc légitime aux yeux de l'opinion la mort de milliers de personnes, dommages collatéraux de l'antiterrorisme. De l'autre côté, la députée macroniste Olga Givernet, en évoquant la mobilisation contre un projet routier entre Castres et Toulouse, qualifiait les manifestants d'éco-terroristes, qui n'ont rien d'écologique. Un même parti, au même moment, exige qu'on désigne par le même mot un groupe ayant tué des centaines de personnes et des personnes qui défendent des arbres. Il met sur le même plan des écolos ou des djihadistes, des meurtres de masse et des idées, des actes déjà commis et des projets. Cette grande confusion a un but, pouvoir neutraliser toutes les personnes désignées comme terroristes. Ce mot est piégé, vide, il faut l'éviter autant que possible. Si le Hamas et les soulèvements de la Terre sont tous deux identiquement terroristes, alors plus rien n'a de sens. Plus rien n'est réellement grave, ou alors tout l'est. Pourtant, l'écoterrorisme est enseigné jusque dans les écoles de police. Le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, Éric Denessé, auteur d'un livre sur le sujet, est intervenu devant les lieutenants de police pour les former. Le site internet de l'École nationale supérieure de police raconte la formation. Denessé a raconté aux futurs gradés que nos sociétés étaient impactées par un triple phénomène. La perte de repères, l'accroissement du temps libre et l'impact du numérique. Ce qui produirait, dans un souci d'action immédiate ou par un activisme assumé, des individus s'appropriant de nouvelles causes à défendre comme l'altermondialisme, l'écologie, le droit des animaux, etc. Voilà le terrorisme selon la hiérarchie policière. On pouvait imaginer naïvement que les vrais éco-terroristes étaient les multinationales qui dévastent notre planète et n'hésitent pas, dans les pays du Sud, à assassiner les défenseurs de la nature, mais non. Il s'agit de militants occidentaux en perte de repères, et voilà qui justifierait un arsenal répressif inouï, des blindés aux dissolutions, des grenades explosives à la surveillance et aux descentes de police d'élite. Voilà, c'était sur donc un texte tiré de contre-attaque.net.
Ok, je veux bien prendre la suite avec un petit texte issu de Courant Alternatif, la rubrique Big Brother. Et pour ce faire, je vais mettre un petit jingle.
J'ai rien vu, rien entendu.
Alors, ça s'intitule « Le côté obscur de la force ». Ce livre d'un journaliste Vincent Nouzil, paru chez Flammarion, le 11 octobre, est une enquête très fouillée sur ce qu'il appelle les dérives du ministère de l'Intérieur et de sa police. En pleine crise des Gilets jaunes, les services de renseignement français ont mis sur écoute et géolocalisé des milliers de manifestants. Jamais une surveillance aussi massive n'avait été déployée. Jamais autant d'individus en même temps n'avaient été concernés. Jamais de tels moyens techniques n'avaient été combinés pour savoir où des citoyens allaient se rendre et pour tenter d'interpeller en amont ceux qui étaient suspectés de s'apprêter à commettre des violences. Selon les témoignages de plusieurs responsables de la police et du renseignement, si le cadre légal a été formellement respecté, certaines de ces surveillances ont été décidées et avalisées sur la base de critères flous et dans la précipitation. C'était la panique au sommet du pouvoir et dans les services, explique une source au ministère de l'Intérieur. Le mouvement des Gilets jaunes se transformait chaque samedi en insurrection. Il fallait sauver la République, tout ça c'est entre guillemets. L'emploi des techniques de renseignement ne peut être justifié que pour la défense nationale, la protection des intérêts majeurs du pays, la lutte contre l'espionnage économique et scientifique, la prévention du terrorisme, du crime organisé et de la prolifération d'armes de destruction massive. Mais ces techniques sont aussi autorisées pour la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, de la reconstitution de groupements dissous, ou de violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. C'est principalement ce dernier motif, appelé 5C, et déjà employé lors de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes au printemps 2018, qui va être utilisé à grande échelle lors de la crise des Gilets jaunes. Dans le détail, le compteur des géolocalisations, déjà en forte croissance les années précédentes, s'affole, passant de 3751 demandes en 2017 à 5191 en 2018, puis 7601 en 2019, soit un doublement en 2 ans. Quant aux écoutes, elles se multiplient aussi sur la même période, passant de 8758 en 2017 à 12574 en 2019, soit une croissance de 43% en 2 ans. Globalement, cette surveillance a concerné au moins 2000 personnes entre fin 2018 et fin 2019. La fin du mouvement des Gilets jaunes en 2020, suivie de la longue crise sanitaire, n'a pas stoppé cette surveillance ciblée. Au contraire, selon les données de la CNCTR, Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, chargée de filtrer les requêtes des services, les demandes d'écoute et de pose de balises pour tous les types de motifs sont restées stables à un niveau élevé depuis 2020. Celles portant sur des intrusions dans des lieux privés ont fortement augmenté, tout comme celles sur la captation de données informatiques. Quant aux demandes de géolocalisation en temps réel, très prisées lors de manifestations, elles ont continué leur irrésistible ascension de 7601 en 2019 jusqu'à 10901 en 2022, un nouveau record. Voilà, extrait d'un texte de Vincent Nouzil paru dans Le Monde. Voilà, un petit peu de musica.
Qu'est-ce qui se passe? Ferme ta gueule, passe-moi l'argent, tout va trop vite. Patiemment je suis et j'attends mon heure. Je te batte même pour du toc.
deal, bis, braquage en temps de crise.
Quand on commence à compter en banque.
Deal, bis, braquage en temps de crise.
Et tu, en argent, là.
Deal, bis, braquage en temps de crise.
Tu sais que c'est notre métier, c'est notre gagne-pain.
Deal, bis, braquage en temps de crise.
Il est pas honnête, mais c'est notre gagne-pain.
Deal, bis, braquage en temps de crise.
Je me suis dit, y a pas de raison que ça s'arrête.
Deal, bis, braquage en temps de crise.
Ils m'ont pas chopé pendant des années.
Deal, bis, braquage en temps de crise.
Et pourtant, un jour ça s'est arrêté.
Deal, bis, braquage en temps de crise. Deal, bis, braquage en temps de crise. Deal, bis, braquage en temps de crise. Espèce de bâtard, accuse le pouvoir. Deal, bis, braquage en temps de crise. Deal, bis, braquage en temps de crise. Deal, bis, braquage en temps de crise. Espèce de bâtard,
je te braque même pour du toc.
Allez, bah on va se laisser. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.